Bonsoir, trois termes sont retenus pour cette ville de la presse de ce soir, à savoir, respect par l'opposition de la motion de censure contre le gouvernement Mousito mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Ensuite, lancement mercredi dernier de l'opération de révision du fichier électoral au Bas-Congo. Et enfin, visite le week-end dernier à Kinshasa de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Trois confrères sont avec nous dans le débat. Il s'agit de Luc Roger Mbala. Il est directeur de rédaction au quotidien L'Observateur, d'un journal qui paraît à Kinshasa. Oscar Bakandoa, il est rédacteur en chef adjoint de Télé7, une télévision qui est née depuis Kinshasa. Et Clément Mangoubou, il est éditeur responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire paraissant à Kisangani en province orientale. Respect de la motion de censure contre le gouvernement, révision du fichier électoral ainsi que visite de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comment la presse chinoise accepte ces différents thèmes? On écoute cette revue de presse que nous présente Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la référence plus qu'écrit à la tricherie. L'opposition a triché pour constater que les irrégularités, le doublement de signatures, le réuniment des signatures par certains députés expliquent pourquoi l'opposition n'a pas obtenu les 125 signatures requises pour avaliser sa motion contre le Premier ministre. La prospérité de son côté se montre beaucoup plus formelle, je cite, c'est le mardi de la semaine prochaine que l'opposition munie d'une motion de censure ficelée va saisir de nouveau le bureau de la Chambre basse du Parlement pour une ultime bataille. Fin de citation. Concernant l'opération de révision du fichier électoral au Bas-Congo, la prospérité révèle que la CEI vient à signaler l'opinion que 507 témoins des partis politiques observateurs nationaux et 31 journalistes font partie des observateurs pendant le déroulement de ces opérations de révision du fichier électoral dans cette province et que la Commission électorale indépendante invitait la population du Bas-Congo à participer massivement à cette opération. Terminons cette revue de presse par la visite le week-end dernier à Kinshasa de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. La MONUC a encore 18 mois, c'est le titre de l'éditorial du quotidien Avenir. Le Conseil souligne que la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a obtenu la prolongation du mandat de la MONUC. Le Phare lui titre le départ de la MONUC, ni calendrier ni chiffre artificiel. Et le quotidien d'ajouter que l'on a noté au cours du point de presse fait avant le retour à New York de la délégation que le fétichisme des chiffres n'aura pas droit de citer dans l'ordonnancement du départ de la MONUC.
Merci Alain pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Luc Roger, vous êtes directeur des rédactions au quotidien L'Observateur, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Et votre réaction par rapport à la manière dont la presse chinoise de cette semaine a traité ces différents sujets?
Bon, je me réjouis d'abord de la manière dont les journaux, les quotidiens congolais ont traité cette information. On a vu des types de diversité variés. Il faut dire que chacun a essayé un peu de condamner ce qui s'est passé au palais du peuple. On a parlé de la tricherie, on a parlé du dédoublement même de voix. Il y a certains députés qui ont pratiquement régné la signature, il y a d'autres qui n'ont pas pu reconnaître la signature. Tout cela s'est passé dans une atmosphère de tension. On se souviendra qu'il y a eu des incidents, les militants du Palou sont venus pratiquement créer une situation d'insécurité sur place. Moi, j'ai d'abord apprécié la presse de la manière dont elle a traité, mais au-delà de tout ça, je crois qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je me rends compte que la motion a été retirée. L'hémicycle du Palais du Peuple est devenu un cadre où les gens font de la motion un point de commerce. Ça, c'est la conclusion que j'ai tirée de ces événements malheureux.
Oscar Bakandoa, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Télé7, c'est une télévision qui est née depuis Kinshasa. Et comment appréciez-vous le travail de la presse chinoise de cette semaine?
Oui, par rapport à votre question, il faut retenir que ce qui s'est passé mercredi et le traitement de l'information par les différentes rédactions, moi j'ai beaucoup plus senti le sentiment. Il n'y a pas eu vraiment objectivité dans le traitement de l'information. Les suivants, je dis, à lire, à parcourir les différentes analyses faites par les différentes rédactions, on a senti qu'il y avait, c'était plein de sentiments. Pendant ce temps, c'était comme si le conseil de rédaction s'est tenu au même moment, à même endroit. On connaît quand même les tendances de certains organes de presse, soit on est à gauche, soit on est à droite, mais je n'ai pas vu vraiment une analyse objective.
Clément Mangoubou, vous êtes invité responsable du journal Mwangaza, c'est un hebdomadaire paraissant à Kisangani, en province orientale. Quelle est la qualité qui a dominé la province orientale cette semaine?
Oui, cette semaine encore, c'était les chefs, les députés provinciaux, les sénateurs et quelques députés nationaux de la province qui ont pris acte de la création ou de l'installation de facto des quatre provinces, à savoir la province de l'Ituri, la province de Diotuélé, la province de Bazuélé et la province de Latiopo. C'est l'actualité qui a alimenté la chronique durant toute la semaine à Kisangani et dans la province orientale.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. Respect par l'opposition de la motion de censure contre le gouvernement Mobutu, mercredi dernier à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, l'examen et le débat sur la motion de censure contre le gouvernement d'Adolphe Mobutu, déposée par l'opposition, n'a pas abouti. Motif, les sénateurs ont retiré leur motion. Selon le président du groupe parlementaire MLC, François Mamba, cette question ne pouvait pas être discutée dans les conditions de pression exercées sur les élus du peuple par les partisans du parti unioniste unifié Palou en venus nombreux pour la circonstance. Les détails avec Julien Niamoni.
La tension était forte dès le matin autour du Palais du Peuple. Les militants du Palou, arrivés sur les lignes à bord des bus loués par le parti, ont fait une véritable démonstration des forces. Drapeau bleu avec 6 étoiles couleur du parti flottait tout autour du Palais du Peuple. Pour mettre la pression sur les forces de l'ordre, ils ont forcé la clôture métallique du Parlement. La police de son côté a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser les partisans du Palou. Après de nombreuses discussions, ils ont finalement pris place dans le balcon de la salle de congrès, escondant des slogans « Libérer, libérer, libérer ». Véritable pression, disons-nous, ils ont empêché les membres du bureau de l'Assemblée nationale, y compris le président de la Chambre basse, d'accéder dans la salle de congrès. Au-delà de la pression mise sur le député par les militants du Palou, le rapporteur de l'Assemblée nationale a été plus explicite. Tout a été réglé au cours de la conférence de président. Dans une déclaration faite à l'issue de la plénière, Wildor Makoniro, rapporteur de l'Assemblée nationale a indiqué que la décision du retrait de la motion de censure a été prise lors de la conférence de président. Il a été constaté qu'un député avait signé 2 fois. Un autre aurait désisté officiellement en écrivant au président de l'Assemblée nationale et un troisième aurait nié sa signature. Conséquence, tout était indiqué que la motion ne sera pas recevable. Pour avoir la chance de revenir avec une nouvelle motion au cours de cette même session, l'opposition a choisi le retrait.
Luc Rosimbala, avez-vous été surpris par cette attitude de l'opposition?
Disons, je n'étais pas. Ça m'a pas beaucoup surpris l'attitude de tous les acteurs politiques. C'est vraiment révélatrice de la classe politique congolaise.
Donc vous saviez que l'opposition allait retirer sa motion?
Je parlais tout à l'heure de motions de censure, motions de méfiance qui sont devenues une sorte de foi de commerce pour les acteurs politiques. Durant toute cette période, on a vu beaucoup d'émotions proposées par les membres de l'opposition et jusqu'à la fin, parfois ça n'aboutit pas et la dernière motion a été retirée. Et ça, c'est quelque chose que je regrette parce que au départ, l'initiateur de la motion, M. Boussa, le député Boussa, a eu suffisamment de temps pour récolter les signatures des différents membres. Je me demande comment il n'a pas pu se rendre compte qu'il y a eu des doublements de signatures. Là, c'est quelque chose qui me frustre un peu. Mais c'est fait que je déplore le fait qu'il s'est fait ce constat au niveau de la conférence des présidents. Et là, il y a même des divergences de vue. Parce que quand vous suivez M. François Mamba, il dit que c'est à cause de l'insécurité qu'ils ont retiré la motion. Ils ont décidé de retirer la motion. Mais quand vous suivez la partie.
Il y a un rapporteur des
présidents. Oui, ils disent que c'est à cause des irrégularités constatées que l'opposition a été obligée de retirer cette motion. Dans cette cacophonie, je me dis que c'est encore une illustration des, comment dirais-je, le manque de culture politique qui caractérise les acteurs politiques congolais. Et ça, c'est dommage pour la population.
Professeur Matanoa, comment analysez-vous les raisons avancées par l'opposition pour justifier les retraits de cette motion?
La première raison, comme François Mwamba lui-même l'avait dit quand il a pris la parole ce jour-là, c'était pour l'insécurité qui régnait dans la salle. Et pourtant, ce n'était pas ça.
Non, vous estimez que ce n'était pas ça.
Non,
ce n'était pas une raison valable.
On va dire parce qu'il y a eu insécurité dans la salle. Alors que la conférence de président avait déjà décidé du retrait. Peut-être l'opposition n'a pas voulu dire clairement que nous avons convenu au cours de la conférence, alors nous ne sommes pas en mesure d'engager un débat sur cette motion de censure. Dites-moi, si sur leur crédit-là, les militants du PALU n'étaient pas venus au Palais du Peuple, quelle pourrait être la raison que les signataires de la motion pouvaient avancer?
Est-ce que les comportements affichés par les militants du PALU n'a pas donné un prétexte à l'opposition pour justifier son acte?
C'est un prétexte qui ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Parce que je dis, tous ces jours ici, quand il s'agit, des questions orales, motions de censure, motions de défiance, il y a les partisans des partis politiques qui viennent pour soutenir leur leader. C'est ce qui a lieu. Et on débat. La fois passée, lors de la question, plutôt de la motion de défiance de Clément Tangou, mais la salle était remplie. Il n'y avait pas de bruit, les gens ne criaient pas. Le problème réel, dans ce cas, c'était le problème des six irrégularités-là, que tout le monde déplore aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas comprendre comment, de tête d'affiche de l'opposition, la classe politique congolaise, on engage une démarche et on ne réussit pas à aller jusqu'au bout. Et ça, ça s'applique un peu. Les signatures qu'on a vues, même ceux-là qui se disent « non, nous n'avons pas été concernés », non. Comment d'abord vous vous engagez? Ok, je signe. Et après, non, monsieur le président, je retire ma signature. Non. La culture politique dans notre pays pose encore problème. Je ne sais pas s'il fallait qu'il y ait peut-être une séance de recyclage dans tout ça. En tout cas, je crois que le peuple a vu à qui il a affaire.
Clément Mangoubou, à votre avis, pourquoi est-ce que l'opposition à la bouche du président du groupe parlementaire FNC, François Mwamba, pourquoi est-ce que cette opposition n'a pas voulu évoquer les raisons liées aux irrégularités constatées dans ces documents? Parce que les raisons qui ont été évoquées, c'est plutôt les raisons liées à l'insécurité. Mais les irrégularités, ça c'est un problème qui n'a pas été soulevé par l'opposition dans la salle.
Il faut souligner ici que tout le peuple congolais est déçu par l'opposition. On attendait de l'opposition de jouer un rôle d'équilibre, un rôle de contrepoids pour que les institutions ne puissent pas déborder dans leurs activités. Mais il se fait que l'opposition aujourd'hui est laminée. Elle est désorganisée, totalement déchiquetée, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une opposition responsable ramasse des signatures sur des feuilles volantes. Il n'y avait même pas un sens organisé où les gens pouvaient venir signer. Mais ce sont des faits volants qui ont circulé à travers Kinshasa et n'importe qui pouvait mettre n'importe quoi sur les signatures. Et vous vous rendez compte que c'est vraiment dommage parce que l'opposition a eu honte de venir se faire ridiculiser dans la salle, dans la plénière. C'est pour cela qu'ils ont pris soin de retirer à temps la motion. Mais moi, je me dis que l'opposition ne semble plus exister à cette allure-là. Parce que lorsqu'on est opposition, on doit être organisé, on doit avoir une vision cohérente, on doit avoir une démarche dialectique dans ce qu'on entreprend. Et comme l'a souligné un des confrères là-bas, il n'y a pas que l'opposition. Toute la classe politique actuelle manque cette vision cohérente, manque cette démarche dialectique. Et ce qui est arrivé, c'est tout simplement déplorable. Deuxième chose, et c'est l'insécurité évoquée aujourd'hui est venue en aval. En amont, il y avait déjà les retraits. Mais en aval aussi, il y a quelque chose qui étonne les gens. Les militants du PALU, leur comportement de ces jours-là. Je crois qu'il n'est pas bon d'amener cette sorte de milice dans des assemblées comme ça. On a connu des situations analogues au Katanga, avec l'Assemblée provinciale, à l'Équateur, Et un peu même à la province orientale ici, les gens se sont bousculés. Moi, je crois que ça, c'est une tendance à vouloir tribaliser les partis politiques, à vouloir ethniciser les partis politiques. Non. Mais je crois que le Palou fait partie d'un ensemble, l'AMPE. Et si le Premier ministre qui est là en fonction parce qu'il provient de l'AMPE, doit être soutenu par l'ensemble de l'AMPE. Mais le Palou se comporte comme si les fonctions du Premier ministre, les fonctions du Premier ministre étaient un peu tribalisées, un peu ethnicisées. Moi, je crois que c'est un comportement irresponsable. Et les hémicycles aujourd'hui sont devenus des endroits dangereux. Comment voulez-vous qu'on bouscule les présidents de l'Assemblée nationale? Comment voulez-vous que les gens bousculent la police? Que les gens s'installent par la force au sein de l'Assemblée provinciale pour mener des actions comme ça. Ça, ça est national, je vais dire. Là, ça devient dangereux. Mais où est-ce que les gens peuvent maintenant se sentir sécurisés? Je me pose la question.
Merci, nous allons lire une de certains romans. Nous avons le journal Tom Malebo qui dit ceci sur sa machette, des graves irrégularités sur tricherie l'opposition aux abois. Nous avons la postérité de jeudi 20 mai qui dit ceci sur sa machette, l'opposition retire sa motion, échec des coups contre Mouzito. Et là, nous avons le quotidien L'Observateur qui dit sur sa machette, Assemblée nationale, les vraies raisons du retrait de la motion de censure contre le gouvernement. Et là, nous avons le journal Les Climats Tempérés qui dit ceci, honteuse mascarade, les jeux des coulisses autour de la motion anti-Mouzito. Et enfin, nous avons le Parc qui dit ceci, motion de censure contre Mouzito, retour à la case de départ, nouvelle croisade de l'opposition pour la collecte des signatures. Donc, pensez-vous que Licoro Diembala, pensez-vous que l'opposition qui a promis de revenir va réunir les nombres de signatures requis?
Je crois qu'avec ce qu'on vient de vivre, il y a quelques jours, il y a fort à parier que l'opposition ne va plus. J'ai craint fort qu'il y ait maintenant une crise de confiance au niveau de l'opposition. Ils ont manifesté leur incapacité à bien organiser les choses, à commencer par l'initiateur de la motion, et suivi par celui qui semble être le chef d'étude de l'opposition, qui a prétexté qu'il y avait un problème de sécurité. En réalité, il y avait ce problème d'irrégularité. Je vois mal les députés, à moins pour moi qu'il y ait un révirement des dernières minutes, je vois mal les députés s'engager dans une nouvelle aventure qui risque encore d'être un véritable échec. Ça, j'ai doute fort.
Mais s'ils tiennent au départ des premières minutes,
mais c'est bien le départ du Premier ministre. Je crois qu'ils doivent faire preuve de beaucoup de sérieux dans leur démarche. Parce que là, on a senti une certaine légèreté. On a parlé de doublement des signatures. On a parlé des députés qui ont réuni leurs signatures. Les gens se demandaient si c'était une mascarade. Nous sommes habitués depuis le début de cette législature à avoir des motions qui n'aboutissent pas. Alors les gens se demandent si c'est devenu un fonds de commerce pour ces députés. On monte les enchères. Quelque part, quand on distribue des petites coupures, les gens s'étaisent. Les gens commencent vraiment à se poser des questions. On se demande si réellement cette opposition veut jouer pleinement son rôle de contrepoids du pouvoir. Je crois qu'il est temps que l'opposition puisse se ressaisir et qu'il puisse prendre des très bonnes stratégies pour essayer de jouer le rôle de contrepoids face au pouvoir qui est en place. Sinon, ce sera une opposition de pas possible.
Oscar Bakanoa, quel sens accordez-vous à cette démarche de l'opposition qui consiste à collecter des signatures afin de déposer une nouvelle motion au bureau de l'Assemblée nationale? Quelle chance vous accordez à cette démarche?
D'abord, une motion, c'est reconnu. C'est ça, c'est la manière de contrôler l'exécutif. Là, les députés, tout comme les sénateurs, ils sont libres. Mais par rapport à ce qui s'est passé, on sent déjà qu'il y a un discrédit. Mais on discrédit à tous les niveaux. D'abord, quand vous engagez dans une démarche, même si l'opposition avait reçu le soutien d'une frange de la majorité,
notamment les courants rénovateurs
de la majorité, bien sûr, mais c'était pour quel objectif? Le fond de la motion, c'est tout à fait normal que le contrôle, la situation générale du pays, ça c'est tout à fait normal. On connaît qu'il y a des problèmes.
eux, qui sont donc les législateurs, ils doivent prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple, respecter la procédure, respecter toutes les consignes possibles. Il ne faut pas qu'on montre aux gens qu'on est encore immature. Non.
C'est des êtres humains, ils sont faillibles. Pourquoi vous ne voulez pas connaître les factures des gens qui peuvent commettre des erreurs?
Mais il faut faire attention. Ça va de l'intérêt du pays. Quelle est aujourd'hui l'image que nous pouvons vendre à l'extérieur? Tout ce qui s'est passé de ce temps que ça a été suivi. Alors, on ne peut pas empêcher à l'opposition de continuer sa démarche, mais qu'une démarche bien préparée, tu vas aller loin, mais là, ça monte, comme on dit, qu'il respecte tous les principes possibles pour que leur objectif soit atteint. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas le Premier ministre tomber par une motion de censure de l'opposition. Ça ne se fera jamais. Même au niveau de la majorité, aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas le dire clairement, ils ont des problèmes. Ils ne veulent pas du Premier ministre, mais ils ne peuvent pas le déchoir sans que le président de la République donne son aval. Ça, c'est ce qui est clair. Et personne aujourd'hui ne peut pas dire que non par cette motion. Même si aujourd'hui la motion qu'on est en train d'initier obtient par exemple 250 signatures, on va la déposer. Et tant que le chef de l'État n'a pas encore décidé, ça n'aboutira absolument à rien.
Oui, Clément Mangoubou, parce que Oscar Bakando a évoqué l'image de l'opposition qui est ternie. À votre avis, qui devrait faire cette opposition pour réguler son image ternie?
Oui, effectivement, l'image de l'opposition a pris un coup vraiment sérieux. Et aujourd'hui, chercher à sauver la face signifie qu'il faut réunir les signatures nécessaires pour que la motion passe. Or, aujourd'hui, on sait que cela est hypothétique, que cela ne pourrait pas être possible. Étant donné qu'il y a un discrédit qui est jeté sur l'opposition, et aujourd'hui, l'opposition agit un peu dans l'émotivité. C'est-à-dire qu'il faut régler des comptes au Premier ministre, il faut régler des comptes au gouvernement, il faut régler des comptes à la majorité. Moi, je crois qu'on ne devrait pas embrasser une telle démarche. La démarche aujourd'hui, c'est de dire où se situe le mieux-être des populations congolaises. Et comment devons-nous procéder pour qu'on arrive à donner à cette population ce qu'elle attend comme aspiration. Je crois que les députés, ils ont tous les mêmes chaque mercredi pour contrôler. C'est réservé, je crois comprendre que c'est réservé au contrôle. Ils peuvent aller contrôler tout le monde. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils se livrent à l'émotivité? Pourquoi ils cherchent à régler des comptes? Pour diriger un pays, on ne doit pas régler des comptes aux gens. On doit chercher à arranger.
Vous pensez que le gouvernement a réglé des comptes?
Oui, l'opposition apparemment cherche à régler des comptes au Premier ministre, cherche à régler des comptes au gouvernement dans son ensemble.
Vous avez pour quel élément pour dire que l'opposition cherche à régler des comptes au Premier ministre?
Oui, je prends par exemple la façon de faire dans la précipitation sans sérieux. C'est-à-dire quelque part, au bout, on s'est dit, il faut faire tomber le gouvernement. Mais on va faire tomber le gouvernement pour quel objectif? Quelles sont les garanties que nous avons que celui qui vient après ou qui viendrait après les premiers ministres actuels serait mieux? Mais moi, je pense que l'opposition, ce n'est pas seulement pour détruire, mais c'est aussi pour construire. Est-ce que l'opposition peut donner des propositions concrètes pour faire avancer les choses au pays? Est-ce que l'opposition peut donner sa contribution? Parce que le pays, c'est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour la majorité, ce n'est pas pour l'opposition, mais c'est pour tous les Congolais. Mais tous ceux qui vont dans le sens de construire, c'est ça. Ce sont ces gens-là que nous devons suivre. C'est à ceux-là qu'on doit croire. Moi, je pense que la population a beaucoup d'aspirations aujourd'hui.
Vous pensez qu'en procédant de cette manière-là, l'opposition n'a pas comme objectif de construire?
Je voudrais bien croire que l'opposition a pour objectif de construire, mais ce n'est pas dans l'égalité un peu. C'est pas bon. Je crois qu'il faut faire les choses calmement, dans la sérénité. Il faut aller dans les dialogues aussi. Ce n'est pas, on peut faire tomber quelqu'un même par les dialogues aussi. Hein. On peut démontrer à quelqu'un qui n'est pas à sa place et qui ne sait pas ce qu'on attend de lui. Tout ça, on peut le faire.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Lancement mercredi dernier de l'opération des révisions du fichier électoral au Bas-Congo. 213 centres d'inscription étaient opérationnels mercredi dernier pour cette opération qui va durer 3 mois, précise le responsable de la commission électorale indépendante CI en cible. Comment s'est déroulé le premier jour, suivant ce reportage de Dani Kinda Zita?
En fait, sur les 447 centres prévus, seulement 213 centres d'inscription ont ouvert leurs bureaux à travers les 10 territoires du Bas-Congo, soit un taux de 47% a indiqué un membre du bureau de représentation de la CEI Bas-Congo. La cause de la non-ouverture des centres restants n'a pas été communiquée. Pour la ville de Matadi, les 25 centres d'inscription sont opérationnels depuis ce matin. À l'école primaire Londe, où les membres du BLP se sont enrôlés, le policier assure la sécurité des personnes qui sont venues pour se faire enrôler. Les matériels ont été déployés dans les centres qui sont opérationnels. Que se passe dans les cas? Aucun problème majeur n'a été enregistré jusque-là, selon la CEI. Signalons que l'objectif principal de la révision de la liste électorale qui a démarré ce mercredi à travers la province est en prévision des préparatifs des élections générales de 2011. Matadi, Dani Kinda Zita, Radio Okapi.
Le rapporteur général de la CEI, Zidane Mirimo, a affirmé que jusqu'à hier jeudi, 417 centres étaient opérationnels sur les 447 prévus. Oscar Batandoa, votre réaction par rapport à cette nouvelle opération de révision du fichier électoral?
Une opération tout à fait normale. La CEI doit pouvoir justifier de l'argent qu'elle a reçu pour cette opération. Mais en ce qui nous concerne, le problème n'est même pas la révision du fichier électoral. Le problème est d'abord qu'on dote des citoyens de cartes d'identité.
Et c'est pas la CEI qui dote
les citoyens. Je dis que c'est ça. Et puis, en plus de ça, il faut le recensement. C'est ça la bonne démarche. Aujourd'hui, on peut donner autant de cartes. Mais la bonne démarche serait que le gouvernement prenne des dispositions qu'on dote tous les citoyens d'une carte pour citoyen, comme à l'époque. Parce que la carte d'électeur, c'est la carte d'électeur, ce n'est pas la carte d'identité.
Qui fait actuellement office de carte d'identité.
Qui fait office de carte d'identité, mais ce n'est pas une carte d'identité. Qu'on passe d'abord au recensement de la population. Qu'on sache quelles sont les statistiques des Congolais qui seront peut-être prêts pour les élections. Entre parenthèses, de l'année prochaine. Qu'on sache peut-être avant les élections, est-ce qu'on pourra encore continuer à enregistrer d'autres électeurs? C'est ça, c'est ce qui est important. C'est maintenant que ceux-là qui font trop de bruit pour le recensement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Qu'on fasse d'abord le recensement. Parce que l'opération de la révision de la liste électorale, on en a fait hier plus que ça. Après quelques jours, on a dit, quand on aura fini avec les provinces, on va encore revenir. On en aura autant de fois.
Oui, il corrigeait Mala. Les estimations de la CEI s'élèvent à 31 millions d'électeurs pour toute l'étendue de la République, sur 25 770 552 électeurs en 2005. C'est vrai, il s'agit des estimations. Mais vous pensez que la CEI pourrait atteindre ce chiffre des 31 millions d'électeurs?
Je crois que nous devons avoir les deux pieds sur terre. Oscar a dit quelque chose d'important. Si la CEI a réussi de l'argent pour organiser toutes ces opérations électorales. Et moi, je me disais que la commission électorale indépendante a suffisamment tiré les leçons des opérations antérieures, c'est-à-dire des opérations qui ont précédé les élections de 2006, pour corriger. Or, je me rends compte que la CEI persiste toujours dans ses erreurs. Je me rends compte d'abord qu'il y a un déficit de communication. Quand vous suivez les reportages des autres confrères, Dani parle de 213 bureaux qui n'ont pas fonctionné,
qui sont opérationnels sur les 447.
La CEI, je n'explique pas pourquoi ces bureaux n'ont pas fonctionné. C'est des gens après de bouche à oreille qu'il y a eu un problème de machine.
Voilà, et hier, les rapporteurs généraux de la CEI, Guillaume Mérimo, a fait une mise au point en disant que sur les 447 bureaux prévus, 437 sont opérationnels.
Ce matin, nous avons eu notre correspondant Matadi qui a confirmé le chiffre du reporter de Radio Capi. Donc, en fait, c'est ça mon inquiétude. Quand la commission électorale indépendante s'est contestée, n'arrive pas à donner l'information la meilleure à la population,
J'ai une inquiétude en ce moment si ces opérations, même les chiffres qui avancent, nous nous demandons si l'opération va aboutir. Oscar avait parlé tout à l'heure de cette opération de réduire les fichiers électoraux ici, à Kinshasa. On a vu tout cela. Ils ont dit, nous terminons à Kinshasa, nous allons en province et nous allons encore revenir à Kinshasa. Combien de temps cela prendra? On nous parle de 90 jours pour le Gabon Congo, mais il y a déjà des centres qui n'ont pas ouvert. Il y a eu des longues files d'attente, des gens qui sont venus très tôt le matin pour faire enrôler, mais qui pratiquement n'ont pas pu le faire parce qu'il y a eu ce problème de machine. Moi, je me dis, est-ce que la commission électorale indépendante a suffisamment tiré les leçons des élections antérieures? Je crains que non. Et il est encore temps, au moment où nous sommes encore au début, il est temps que la CIS ressaisisse et qu'ils voient comment ils peuvent bien organiser les choses et surtout améliorer son système de communication vis-à-vis des électeurs.
Et vous pensez que si les choses sont faites comme il se doit, la CIS pourrait atteindre ce chiffre de 31 millions d'électeurs?
Là, ce sont des estimations, mais la CIS avance les estimations, mais il y a certains impératifs. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a un manque criant des infrastructures. On peut se dire, bon, nous allons dans une province éléphantesque comme l'Équateur ou la province orientale. Ils peuvent estimer le recensement à 2 ou 3 mois, mais cela peut s'étendre jusqu'à 6 mois. Mais il y a toujours des imprévus. Et moi, j'ai dit, il faut, avant qu'on avance des chiffres comme ça, il faut faire une analyse profonde pour essayer de ne pas être à côté de ce qu'on dit à la population.
Clément Mangoubou, vous savez, dans ce processus, il y a plusieurs acteurs. Hein. La CI a des partenaires, notamment les compétitions religieuses, la société civile, les partis politiques, et tous se sont invités à sensibiliser la population par rapport à ces opérations. Mais la CI c'est plein du fait que les partis politiques ne font pas suffisamment ce travail-là de sensibilisation de leurs militants. Et ne pensez-vous pas que cela pourrait poser des problèmes dans le futur?
Oui, je crois que poste de recensement général, il faut procéder à cette opération parce que les élections approchent. L'année prochaine, il y aura des élections, comme on dit. Mais je me dis que la CI a des problèmes, étant donné qu'elle ne doit pas essentiellement compter sur ces partenaires-là. Elle doit faire le travail de base, elle doit être partout et elle doit faire ce travail. Alors, pendant 3 mois, elle va passer dans d'autres provinces. Or, si le Bas Congo prend 3 mois, c'est que pour terminer toutes les provinces du Congo, il faudra 3 mois, ce qui prendra à peu près 2 ans et 3 ans. Vous vous rendez compte que cette opération peut connaître des problèmes aussi. Étant donné que à l'heure actuelle, au stade actuel, la CIE est incapable d'organiser instantanément cette opération à travers les pays, comme l'ont souligné les confrères là-bas. Prenez l'Équateur, prenez la province orientale, prenez d'autres aléas qu'on a par exemple dans le nord, le sud du Kivu. Vous vous rendez compte que c'est une opération autrement compliquée, c'est une opération difficile, parce que aller dans toutes les provinces et consacrer chaque province 3 mois, signifie qu'il faut prendre 3 ans. Et 3 ans, les élections, c'est vraiment passé. Mais je me dis, on fait des projections sur base de quoi? Je ne sais pas, parce que après les dernières élections, il y a des gens qui sont morts, il y a probablement qui ont grandi, qui ont franchi là-bas des 18 ou 20 ans. Bon, il y en a qui n'ont jamais été recensés, qui n'avaient pas voté à l'époque. Il y en a qui sont dans des coins reculés. Mais ça va faire des problèmes. Moi, je crois que ce sont des estimations qu'on doit vérifier sur le terrain. Et pour mettre à contribution tous les partenaires, les églises, les partis politiques, moi je crois qu'il faut une communication, comme l'a souligné un des confrères là-bas. Il faut approcher ces gens-là, il faut parler avec eux, ce n'est pas à distance, il faut les inviter à venir travailler, à collaborer avec vous. Mais il faut approcher ces gens-là, il faut approcher les partis politiques, les églises, d'autres associations, et poser clairement les problèmes, dire qu'est-ce que vous attendez de ces associations-là, de ces partis politiques, des églises. Dites clairement ce que vous attendez, quelle doit être leur contribution. C'est ça le problème.
La CI affirme avoir fait ce travail-là. Elle dit que chaque fois avant une opération dans une province donnée, la CI organise un forum avec les partis politiques, etc. C'est fait chaque fois, mais on ne voit pas des réactions de la part des partis politiques qui ont du mal à sensibiliser leurs militants parce que déjà par rapport à la province du Bas-Congo, la CI dit que on ne voit pas les témoins des partis politiques dans les différents centres d'inscription. Alors, mais là, comment ces partis politiques pourraient analyser les déroulements de ces travaux s'ils n'ont pas des témoins dans ces différents centres?
Oui, mais il faut voir sur quelle base la CI et ses différents partenaires partent. Parce qu'il ne faut pas venir un jour et dire, bon, demain, nous commençons l'opération. Mais il faut monter des mécanismes ensemble, il faut monter des modalités ensemble, il faut rester et dialoguer, discuter, échanger le plus longtemps possible pour arriver à mettre en place des mécanismes. Mais je crois que ça a été un peu précipité aussi. On vient au dernier moment et on sollicite l'engagement, on sollicite la contribution des partenaires. Mais ça doit être un travail de longue haleine. On doit, ça doit être quelque peu permanent, étant donné que nous sommes dans un processus depuis 2006. On est dans le processus électoral qui n'en finit pas. Alors, il fallait, depuis cette date-là, garder les contacts, garder la communication et essayer de travailler longtemps ensemble.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir. Visite le week-end dernier à Kinshasa de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Clôturant cette visite le samedi dernier à Kinshasa par une conférence de presse, le chef de la délégation et ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Gérard Haraud, a rappelé l'objectif de la visite. Il s'agit d'entamer un dialogue avec les autorités congolaises et la société civile sur l'avenir de la MONUC. Selon l'ambassadeur, les autorités congolaises n'ont pas demandé le retrait de la MONUC. Elles ont plutôt, affirme-t-il, demandé sa reconfiguration pour s'adapter aux nouvelles réalités du pays. Gérard Haraud est au micro de Guy Congoli.
La situation a changé sur le terrain et il faut donc que les missions de la MONUC, la configuration de la MONUC, correspondent à cette nouvelle situation sur le terrain. C'est-à-dire que la situation dans le domaine de la sécurité s'est améliorée, elle reste fragile, il reste des groupes armés, mais il faut également travailler vers plus de stabilisation, plus de construction de l'État congolais. Je pense qu'il y a un accord profond entre les autorités congolaises et le Conseil de sécurité pour dire que lorsqu'il y aura départ de la MONUC, il faut que ce départ se passe dans les meilleures conditions. C'est cet objectif que nous poursuivons ensemble. Pour que ça se passe dans la meilleure condition, nous devons avoir un dialogue constant sur la base de la situation sur le terrain. Parce que là, les autorités congolaises en sont d'accord. Il ne s'agit pas d'être dirigé par un calendrier artificiel ou par des chiffres artificiels. Il s'agit de savoir si dans tel endroit, la MONUC peut se retirer parce que derrière, les autorités congolaises vont assurer la sécurité de la population.
Oscar Bakandoa, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef pour adjoint des Télé7, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Quelle est votre analyse après cette visite de l'élévation du Conseil de sécurité des Nations Unies au Congo?
Oui, la visite est très intéressante dans la mesure où la question du retrait des troupes de la MONUC faisait déjà la une de l'actualité ici. Même le gouvernement en avait parlé dans le temps et après plusieurs analyses, on a senti que non, il fallait vraiment rectifier les tirs. Mais la MONUC, peut-être dans certains points, n'a plus encore sa raison d'être. Par exemple, ici à Kinshasa, moi je ne vois pas pourquoi on doit garder la MONUC. En Mbujimayi, à Kananga, on retrouve la MONUC. Pour quel intérêt? Là, c'est comme si on était sous un protectorat. Pour le moment, ce qui est bon. Après, bien sûr, cette visite, reconfiguration, bien sûr, de la MONUC, moi, je préfère qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité mette les autorités congolaises à l'épreuve. On voit de quoi ces autorités sont capables. Parce que nous ne pouvons pas continuer toujours avec, si vous faites un an, la MONUC est là-bas. Non. Que le Congo se sente aussi à l'aise. On ne doit plus attendre toujours, non, parce que la communauté internationale a dit, parce que le Conseil de sécurité a dit, non, quand même. Là, on se sent comme des petits-enfants qu'on est en train de faire grandir. Quant au calendrier, bon, je sais que la MONUC finira par partir, mais dans un premier temps, qu'on mette nos autorités à l'épreuve. Devant leurs propres responsabilités, on voit de quoi elles sont capables.
Philippe Rosé-Mbala, je rappelle que vous êtes directeur de rédaction au quotidien L'Observateur. C'est un journal qui paraît à Kinshasa. Quel est votre point de vue par rapport à cette visite du Conseil de sécurité des Nations Unies au Congo?
La visite de la délégation du Conseil de sécurité a fini par recadrer les choses.
C'est-à-dire?
Au départ, il y avait une sorte d'ambiguïté. On avait des acteurs politiques congolais sortir de leur coquille pour dire qu'il fallait que Blamonique parte pour laisser la place au FARDC et aux Congolais pour prendre le destin du pays en main. Mais nous, lorsque vous vérifiez les choses sur le terrain, les Congolais ne donnent pas l'impression de prendre les choses entre leurs mains. Quand j'étais dans la province orientale au mois de janvier, mais quand vous voyez le nombre de travail qu'il y a bas, les casques bleus d'harmonie, en collaboration avec les SRDC, c'est une opération qu'il faut encourager. Moi, je me dis, il a été temps qu'il y ait ces échanges entre la délégation du Conseil de sécurité et les autorités congolaises. Au moins, nous savons maintenant qu'il sera question d'une configuration de la mission de la Monique en RDC. Et là, je crois que le porte-parole de cette délégation là a été un peu plus clair en disant que la Monique va partir, mais pas de manière précipitée, parce que nous connaissons bien les acteurs politiques congolais. Ils sont prêts à faire exploser les choses. Quand la situation explose, ils sont dans les chancelleries, ils prennent les avions, ils fuient et laissent la population entre les mains. Moi, j'étais à Sainte City, j'ai vu comment les choses s'est passées. Nous avons encore besoin que la Monique travaille par la partie, effectivement, comme on a parlé de la configuration, on peut travailler dans ce cadre-là. Configuration peut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, comme a proposé le concours SCAR, les parties du pays où il y a un retour à la normale, on peut retirer les casques bleus. Mais il y a également des endroits qui restent encore des zones explosives où il y a une nécessité
de reconfigurer
les souterrains. Il y a également des opérations purement humanitaires. Là, la Monique est là également pour assurer la sécurité de la population en collaboration avec les casques bleus. Moi, je salue cette collaboration parce que, en fin de compte, la Monique ne restera pas définitivement en RDC, mais il faudra que la Monique parte en laissant une situation calme parce que le Congo fait frontière avec notre pays et quand le Congo est malade, c'est toute l'Afrique centrale qui tombe qui risque d'être déstabilisée.
Clément Mangoubou, je rappelle que vous êtes éditeur responsable du journal Mwangaza, c'est un hebdomadaire qui paraît à Kisangani en province orientale. Comme vous venez de le dire, Luc Rujumbala, il était temps que cette délégation arrive au pays. Donc vous pensez qu'il y avait opportunité que la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies puisse venir échanger avec les autorités congolaises?
Effectivement, comme l'a souligné Luc tout à l'heure, il y avait opportunité pour que les choses soient recadrées. Luc vient de le dire tout à l'heure, et ça a permis de recadrer les choses, parce que des voix s'étaient élevées pour demander le départ de la Monique, même dans le milieu gouvernemental. Mais Dieu merci, nous apprécions aujourd'hui le fait que le gouvernement lui-même ait mis la pédale douce pour dire bon ensemble, parce que la Monique, les conseils des Nations Unies, des conseils de sécurité a dit, nous verrons et vous écoutez. Ça veut dire, ils savaient que les Congolais demandaient le départ. Et les Congolais ont mis la pédale douce, maintenant, ils ont compris qu'il faut négocier. Effectivement, la Monique a aidé les Congos, a accompagné les Congos dans des moments difficiles. La Monique a permis aussi de consacrer une sorte de l'internationalité de la République démocratique du Congo. La Monique a contribué dans les projets de développement. La Monique a créé des emplois. Ça, c'est vrai. Mais nous pensons que le Congo est un pays souverain. Et comme l'a dit celui qui dirigeait la délégation, il faudra que la Monique
mette
dans des coins où il se pose des problèmes. Mais dans des coins où le Congo lui-même est capable d'assurer la sécurité, de protéger ses frontières, sa population. Je crois que la Monique peut se retirer petit à petit parce que finalement, il faut que cette souveraineté aussi soit affirmée. Et nous n'allons pas rester éternellement sous les effets de la Monique. Moi, je crois que il faut trouver ce compromis-là comme il a été trouvé. Les choses seront programmées et progressivement, la Monique va nous laisser évoluer aussi comme un État responsable.
Merci, c'est la fin de cette émission. Guy Manzangou était à la technique, Kaline Koufé à la réalisation, assisté d'Alain Hirung, sous la supervision de Télé-Équipe Ramondo. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Thank you.